on s'emploie pour vous. Le podcast des juniors d'Alsace.
On s'emploie pour vous. Et ce mois-ci, dans l'épisode qui va suivre, nous allons vous parler d'un sujet qui fait peur. Très peur, comme ça, de premier abord. Il faut dire, il y a quatre lettres, un gros acronyme, c'est tout nouveau. Bon, ça a 2-3 ans tout de même. Mais en fait, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, surtout avec notre invitée, Nathalie Meyer de NM Conseil, spécialiste du droit. Et du droit de quoi? Du droit des... ou en français, du droit des RGPD. Bonjour Nathalie. Bonjour Éric Ricoeur des juniors d'Alsace. Monsieur le Premier ministre nous accompagne aujourd'hui.
Eh oui, bonjour Emmanuel, bonjour Nathalie.
Avant que Nathalie ne définisse les RGPD, Éric, premier abord comme ça, RGPD, ça te dit quoi comme ça, le premier truc?
Quelque chose d'un poil austère, un poil contraignant et qui peut provoquer quelques torts à une entreprise quelle qu'elle soit si elle ne s'y raccorde pas, si elle ne s'y plie pas.
Alors Nathalie, ces quatre lettres, RGPD, c'est quoi?
C'est règlement général à la protection des données personnelles. Donc c'est un règlement qui est du droit européen et qui s'applique directement sur tous les pays de l'Union européenne, donc des 27 exactement pareil.
Et aujourd'hui, on va s'intéresser au RGPD, mais comme c'est on s'emploie pour vous, c'est l'emploi, c'est la recherche d'emploi, on va voir en matière de recrutement, en matière de travail, à quoi cela correspond. Première question, quand on cherche un emploi via LinkedIn ou via un site en ligne, à partir de quel moment est-on déjà confronté au RGPD? C'est au moment où on remplit sa fiche d'inscription?
Oui, tout de suite. En fait, avant même que tu remplisses ta fiche, lorsque on arrive sur le site, on a déjà tout de suite la demande de cookies. On va avoir un consentement pour savoir si on veut effectivement utiliser des cookies ou pas. Donc là, déjà, on est dans du RGPD. Donc c'est la première phase.
Les cookies qui servent à quoi?
Alors les cookies sont des traceurs en fait qui permettent d'avoir des données personnelles sur la personne qui les remplit ou qui accepte de les avoir. On peut avoir des cookies publicitaires ou alors des cookies qui permettent d'aller sur son propre ordinateur et de laisser des traces informatiques qui intéressent différentes personnes.
Ce qui n'est pas super cool dans l'absolu.
Si on ne le souhaite pas, non.
Donc ça veut dire par exemple, avec ces traceurs très précis, je postule pour un emploi plutôt technique. Faut pas que je sois étonné si je reçois plein de pubs pour des appareils de bricolage dans la foulée.
C'est ça. En fait, si on accepte de donner ces données personnelles, donc on va avoir de la publicité dite ciblée. Donc on va se retrouver avec des publicités qui correspondent au domaine d'où on vient d'aller sur le site internet.
Et c'est là que si on fait une recherche un peu bizarre, on se retrouve avec des publicités bizarres et il faut pas que madame elle passe derrière.
C'est ça. C'est pour ça que je dis à monsieur, c'est la protection du citoyen et de la citoyenne.
Le CV. Sur ces sites, on nous demande souvent de mettre différentes coordonnées, plus de déposer le CV. Le CV, qu'en est-il? Quelle est sa protection? Est-ce qu'elles peuvent s'en servir à différentes fins qui sont autres que juste nous aider à trouver un travail?
Non. Alors en fait, le CV, effectivement, on estime qu'il y a un consentement de la personne quand elle va déposer son CV et qu'elle va donner ses données personnelles. Quand bien même elle a un consentement, la personne qui va utiliser ce CV-là ne doit utiliser que ce qui est objectivement nécessaire au poste de travail. Donc si la personne a mis, je ne sais pas, qu'elle aime lire, faire du running, etc., si ça n'a aucun rapport avec le poste, l'employeur ou le futur employeur doit éliminer tout ce type de données-là. Parce qu'il faut qu'il y ait une minimisation et une proportion des données.
C'est assez impressionnant, Éric, de se dire qu'il faut éliminer ça. On se dit, ouais, les personnes, elles vont se dire, bah, si le candidat a mis ça, autant en profiter.
Ben évidemment. Et je crois que c'est un des problèmes principaux que d'implicitement accepter, sans trop réfléchir, toutes les questionnaires qui sont liés à cette notion de protection. Non?
Alors, justement, en fait, pour le RGPD, on demande à ce qu'il y ait un consentement qui soit dit objectif. C'est-à-dire que la personne, elle va cocher si elle est d'accord ou pas d'accord. Tant qu'elle n'a pas coché, on va considérer qu'il n'y a pas de consentement. Donc, on ne peut pas utiliser ce qu'elle nous donne.
Qui ne dit mot ne consent pas.
Et quand bien même elle consent, elle peut à tout moment revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle univoque. Donc, à tout moment, elle peut revenir en arrière et dire finalement, j'ai plus du tout envie que vous ayez cette donnée-là sur moi. Je veux que vous les éliminiez. Et c'est ce qu'on appelle le droit d'accès et le droit d'effacement.
Alors, il y a une question qui se pose sur le CV, avant même de se poser d'ailleurs sur le RGPD. C'est la question de la photo, la question de l'âge, la question du sexe, la question de l'origine. Alors, on entend beaucoup d'associations antiracistes dire « Oui, mais quand on voit un CD avec un nom nord-africain, on se doute qu'il a plus de chances d'être mis à l'as. » On en est où par rapport au RGPD avec ces questions?
Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On demande à ce que dans le CV, il n'y ait que des éléments objectifs par rapport au poste qu'il y a pour voir. Donc, le fait que ce soit une femme ou un homme ne devrait pas avoir un élément, être un élément objectif. Donc, dans ces cas-là, il ne doit pas apparaître. Le nom doit apparaître puisqu'il faut qu'on contacte la personne. Mais il peut y avoir pas le prénom éventuellement. On peut avoir que le nom. En fait, cette histoire de minimisation, elle vaut sur tout. Donc, on met que ce qui est vraiment nécessaire pour l'obtention du poste où on imagine que le poste pourrait avoir besoin. Donc tout le reste, on l'élimine.
Question très abrupte, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu tartuffe, hypocrite à faire tout cela? Parce qu'un recruteur potentiel, s'il voit que la personne met juste ce qu'il y a besoin, va se dire « Ouais, non, quelqu'un comme ça, j'ai pas envie de bosser avec cette personne. »
C'est un risque, parce qu'effectivement, quand on va avoir un CV qui va arriver tellement épuré, que finalement, on va se dire, il est peut-être embêtant celui-là, il connaît peut-être un peu trop, on risque d'avoir des ennuis, et ça peut effectivement l'écarter. Mais ça ne le devrait pas si nous faisions tous exactement la même chose. Si nous mettions que ce que la loi nous demande, à ce moment-là, on serait tous sur un pied d'égalité et il n'y aurait pas cette mise à l'écart.
Et ça peut être un bon coup si on veut bosser dans les RGPD. Au moins, le recruteur voit que la personne a tout compris tout de suite.
Voilà, on se dit, elle sait ce qu'il en est, et peut-être qu'il n'aurait pas demandé tout ça.
Alors, on va aller au-delà du CV. Aujourd'hui, grâce à Google, qui est notre ami, encore que, hein, un ami qui vous veut du bien, comme le titrait Dominique Moll dans son film, le recruteur, évidemment, il a un nom, il a un prénom, il a quelques qualifications, il va aller sur Google, il va googler le candidat ou la candidate, et qu'est-ce qu'il va pouvoir retenir? Par exemple, si j'ai des publications pro Racing Club de Strasbourg-Alsace sur mon Facebook, et que le recruteur, il est pro FCMS, est-ce qu'il peut retenir ça contre moi?
Alors non, parce que le recruteur ne peut pas nous googliser, ou en tout cas, il ne peut pas le faire pour s'en servir ensuite pour le choix du candidat. Parce qu'on a ce qu'on appelle dans RGPD la finalité. Et donc, quand on a mis ses données personnelles, par exemple, sur son site Facebook, on l'a mis pour une finalité qui est de partager avec des amis et non pas de servir de recrutement. Donc, on ne peut pas utiliser les données à une autre finalité que celle qui a été énoncée. Donc, il pourra le voir, mais il ne pourra pas l'utiliser contre la personne. C'est la même chose sur LinkedIn, par exemple.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que LinkedIn, c'est un réseau très orienté professionnel.
Eh bien là, on ne peut pas contacter des personnes si elles n'ont pas coché qu'elles souhaitent être contactées ou qu'elles sont en recherche d'emploi. Si elles ne l'ont pas noté, alors on ne peut pas les contacter. Sinon, on est contraire donc, à la protection des données personnelles.
Alors là, on est en train, Eric, d'énoncer des bons comportements et des mauvais comportements. Comment peut-on prouver ces mauvais comportements s'il y en a et quelles peuvent être les suites?
Alors, on en retrouve particulièrement dans les techniques en fait, de recrutement. Ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, on prend des candidats, on les met dans une salle et on fait une caméra cachée pour savoir comment ils réagissent par rapport au stress ou quelle est la personne qui va avoir une initiative par rapport à d'autres. Donc là, par exemple, c'est des comportements qui ne peuvent pas être acceptés puisqu'on va dire qu'il n'y a pas une proportion et que ce n'est pas une manière objective de qualifier les candidats. Donc là, si on est victime de ce genre de choses, à ce moment-là, on peut porter plainte à la CNIL en disant qu'il y a une discrimination qui a été faite ou qu'il y a une utilisation qui n'a pas été légale des méthodes de recrutement.
Il y a beaucoup de dossiers administratifs ou judiciaires liés au RGPD aujourd'hui. Ça, on sent qu'il y a un essor.
Oui, en fait, on a une augmentation de plus de 500% en fait des plaintes.
Ah oui, quand même.
Et qui sont liées souvent donc aux salariés. Ça peut être par exemple pour la vidéosurveillance. Ça peut être aussi sur différents domaines de la vie privée du salarié au travail, le fait d'utiliser le mail, d'utiliser les outils électroniques, etc. Donc tout ça, en fait, les salariés maintenant, il y avait un sondage de la CNIL en décembre qui disait que 87% des salariés, ou même de la population, connaissaient ses droits au niveau de la protection des données personnelles. Donc, ils les utilisent.
Ça me fait penser d'ailleurs à un fait divers en Espagne qui a été conclu en justice il y a quelques mois seulement. Un homme a été pris par les caméras de vidéosurveillance de son entreprise en train de voler dans le coffre. Il a été poursuivi. Il risquait plusieurs années de prison. Et là, son avocat est arrivé en plein milieu du procès. Hop, hop, hop ! J'ai la carte RGPD. Il n'avait pas le droit de filmer mon client. Et c'est l'entreprise qui a été condamnée à reprendre cet homme qui avait volé au sein de l'entreprise.
Alors en fait, là, c'est lié au fait que la vidéosurveillance, c'est vraiment très particulier. La vidéosurveillance, pour que vous puissiez la mettre en place, il faut, si c'est dans l'entreprise, avoir une analyse d'impact qui est faite. Et si c'est hors de l'entreprise, il faut une autorisation préfectorale. Donc là, dans ton exemple, c'était vraiment dans l'entreprise. Donc dans l'entreprise, en fait, il faut qu'il y ait cette analyse d'impact qui soit faite par un spécialiste des protections des données personnelles qui va faire une étude de risque et qui va dire si on peut les mettre, pas la mettre, comment la mettre, etc. Donc si ça, ce n'est pas fait, on est contraire à la loi et donc on ne peut pas utiliser des images qui ont été captées de manière illégale. Donc dans l'exemple que tu donnes, c'est certainement que le juge n'a pas pu utiliser les images puisqu'elles ont été captées de manière illégale et donc il n'y avait plus moyen de preuve.
Oui, Eric, là, je sens c'est dubitatif. Hein.
Oui, c'est comme ça que ça a dû se passer.
Mes souvenirs sont un petit peu différents, c'est-à-dire qu'on a le droit de filmer, ça, ce n'est pas un problème. On n'a pas le droit d'utiliser les contenus de film à des fins directement punitives. C'est-à-dire qu'il faut une commission rogatoire et ce sont les forces de l'ordre qui ont le droit d'exploiter le film.
Alors non, on peut vraiment pas, la vidéosurveillance, on ne peut vraiment pas l'utiliser si on n'a pas fait d'analyse d'impact.
C'est juste.
Donc on ne peut même pas filmer, en fait, on ne peut pas mettre même une caméra fictive, même si elle est fictive. Le moment qu'on laisse croire à une personne qu'on est en train de l'enregistrer, faut déjà faire cette analyse d'impact. Donc l'analyse d'impact doit être faite, donc c'est une analyse de risque.
Signalisation en plus.
Une signalisation qui est très spécifique par rapport avant, après le RGPD. Et en plus, on doit avoir une notification qui est faite aux personnes qui sont vidéosurveillées, pas que les salariés. Si je suis un client et je passe, il faut qu'il y ait une notification qui soit faite très spécifique.
Oui.
Et ensuite, on doit tout ça le rapporter sur une fiche sur le registre de traitement qui va indiquer pourquoi je filme, la finalité, qu'est-ce que je vais en faire, quels sont les destinataires, quelles sont mes bases de droits, qui va pouvoir les regarder et comment elles vont être détruites. Et seulement quand on a ça, alors on peut filmer. Tant que l'on n'a pas ça, on ne peut pas filmer.
Oui, et on ne peut pas exploiter directement.
Et on ne peut pas en plus exploiter, c'est sûr.
Non, mais même si on a tout ça, en tant qu'entreprise, on n'a pas la possibilité ni le droit de l'utiliser directement.
Alors directement, ça dépendra de ce que vous voulez faire avec. En fait, quand vous faites l'analyse d'impact, vous allez dire au niveau des bases légales, qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc il va y avoir, ça peut être la surveillance des biens et des personnes, ça peut être la sécurité des biens et des personnes, ça peut être, ça dépendra de ce que vous avez mis. Et selon ce que vous avez mis, c'est là où intervient l'analyse d'impact. Le spécialiste sur la protection des données personnelles, pour ce que vous voulez faire, va vérifier par rapport à la loi, pas que du RGPD, va regarder soit sur le RGPD, code du travail, code de la sécurité sociale, code tous les différents codes, vérifier qu'effectivement vous pouvez faire ce que vous souhaitez faire. C'est ça l'analyse d'impact. Et c'est lui qui va vous dire, si vous vouliez faire ça, là vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire mais différemment, ou qu'est-ce que vous voulez faire exactement pour que ce soit légal. Donc, on peut faire, mais il faut que ce soit dans un cadre légal.
Et le cadre légal, vous avez compris, c'est encore plus compliqué que d'installer tout simplement la caméra.
Non, parce qu'il faudra vraiment vérifier effectivement qu'on colle par rapport au code du travail, au code civil, enfin tout ce que
ce sont plusieurs codes finalement,
oui,
qui s'entrechoquent avec parfois des décisions qui ne sont pas forcément les mêmes.
La protection des données personnelles, en fait, on la retrouve un petit peu partout, même dans la loi de la presse. On voit qu'il y a aussi de la protection des données et on va avoir comme ça un millefeuille de protection sur les données personnelles. Et on prendra celui qui est le plus protecteur. Si c'est le RGPD, alors ce sera le RGPD. Si c'est le Code du travail, alors ce sera le Code du travail ou la loi informatique et liberté. Donc on va regarder par rapport à ce millefeuille et on va prendre celui qui est le plus intéressant. Je peux te donner un exemple sur le Code du travail. On avait une entreprise strasbourgeoise qui a mis des codes pour rentrer dans les entreprises. Et en fait, la personne qui mettait son code était identifiée grâce à ce code et on savait qu'elle était rentrée à telle heure, etc. Il n'y avait pas forcément toujours la bonne personne qui utilisait le bon code. Pour éviter ça, en fait, ils ont fait un système où lorsqu'on met le code, une photo prend en photo la personne. Donc, ce qui fait que 4 fois par jour, on est photographié en mettant le code. Donc, un des salariés a pensé que ça n'avait pas l'air super conforme au code du travail, a demandé à l'inspection du travail de venir. L'inspection du travail a regardé, elle a dit oui, effectivement, par rapport au code du travail, c'est conforme. Mais par rapport au RGPD, ça ne m'a pas l'air conforme. Donc, elle a prévenu la CNIL, qui a fait un rapport et qui a considéré, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas cette proportionnalité et cette minimisation des données. Le le fait de photographier 4 fois par jour une personne n'est pas proportionnel par rapport à la protection des données personnelles et le bénéfice que va en retirer l'employeur. Donc il y a toujours ce côté-là. Il y a plusieurs strates de protection et on va toujours regarder celle qui protège le plus.
D'accord. C'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas une seule voie. Moi, je reviens à ma personne qui a été embauchée, ça y est. Ou c'est une personne qui, parfois, a envie d'aller un peu sur Instagram, sur Facebook, sur son ordinateur professionnel, qui a aussi envie d'envoyer des mails aux copains en disant « Coucou, je suis au travail, là, je suis en pause, machin. » Est-ce qu'elle a le droit de le faire ? Est-ce que l'entreprise a le droit de lui taper sur les mains ?
Alors, quand on fait la mise en conformité, un des documents qu'on doit faire pour être conforme à RGPD, c'est la charte informatique. Et dans cette charte informatique, on va détailler ce que le salarié peut faire ou ne peut pas faire avec le matériel informatique qui lui est fourni.
Ça va dépendre donc de chaque entreprise.
Alors, il y a une base qui est commune à tous, mais en fait, on peut être plus permissif ou être juste par rapport conforme à la loi. Ce que la loi dit par rapport au code du travail, c'est que le salarié a droit à la vie privée dans le cadre de son travail. Donc, il peut utiliser le téléphone, il peut utiliser le mail, il peut utiliser effectivement une clé USB ou encore une partie du serveur, mais il faut qu'il le fasse avec parcimonie, donc il ne faut pas qu'il fasse que ça, et il faut qu'il soit formé pour qu'il sache ce qu'il peut le faire ou pas. Si un mail, il n'y a pas marqué personnel, à ce moment-là, il peut être ouvert. S'il y a marqué personnel, à ce moment-là, on pourra l'ouvrir, mais avec d'autres méthodes, avec l'inspection du travail, etc., pour l'ouvrir. Donc, il faut que le salarié sache par rapport à cette charte ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Par rapport à Instagram, etc., là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que, oui, il peut le faire si sa charte lui permet d'aller n'importe où sur Internet. Mais si son employeur a décidé de restreindre pour sécurité informatique qu'on ne puisse pas aller partout ou télécharger, là, il ne le pourra pas.
Eric a écouté Nathalie. On a l'impression qu'avant de commencer le podcast, on allait avoir droit à Big Brother qui nous espionne, qui nous martyrise. Et au contraire, quand on écoute Nathalie, on se dit on est vachement protégé grâce à ce RGPD.
Oui, oui, la protection est effective. Et la limitation de ce qu'on peut faire des données est claire. Maintenant, ça interroge quand même sur 2-3 petites choses. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse considérer que les RGPD protégeront une personne de ce qu'elle peut écrire sur d'autres supports. Ce sera vrai à partir du moment où il y a une procédure juridique, mais si on est, par exemple, dans le cadre d'une embauche et que, finalement, le recruteur n'a pas à justifier formellement son acceptation ou son rejet, on ne sait pas quelles données, finalement, aura justifié sa position.
Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on dit, enfin, je conseille surtout aux jeunes de jamais laisser de traces sur le net.
Oui.
Parce qu'effectivement, le recruteur n'a pas le droit de l'utiliser, mais il va le voir. Ça va l'influencer quand même.
Il y aura de l'intitulé personnel.
Donc, c'est pour ça qu'il existe ce droit d'effacement ou le droit à l'oubli qui a été fait par rapport au RGPD pour demander à ce qu'on puisse effacer toutes ces traces informatiques qu'on a laissées, qu'on retrouve en googlisant. C'est Google Spain, c'est le premier arrêt sur ce que c'est que l'effacement et le droit à l'oubli. Donc c'était à savoir, est-ce qu'on peut effacer lorsqu'on le demande entièrement la trace qu'on a laissée sur Google? Ça veut dire, est-ce que c'est Google juste Google Espagne? Là, Google au départ disait, si j'efface 3 pages, je considère que c'est effacé. On leur a dit non, il faut aller plus loin. Mais après, pour Google, techniquement, on disait que c'était impossible de faire google.com. C'est-à-dire que quel que soit partout dans le monde, si on tapait le nom de cette personne, à un moment, elle risquait de remonter dans un pays ou dans un autre parce que techniquement, c'était trop difficile. Donc finalement, on a considéré que quand on arrivait, je crois que c'était une dizaine de pages, que le nom sort qu'au bout de la dizaine de pages, on considère que le droit à l'oubli a été satisfait.
Oui, sachant que les gens vont rarement la deuxième, troisième.
Alors ça s'arrête à la deuxième,
oui,
en général.
Oui, c'est ça.
Donc c'est ça aussi, c'est de dire, attention, ne laissez pas de traces. Lorsque l'on a des mineurs, on peut encore mieux effacer que lorsque c'est des majeurs, mais c'est toujours difficile et on laisse toujours des traces. Donc évitez de laisser des photos de soi très sympathiques,
compromettantes, à un
compromettantes
moment.
Qui sont marrantes à 20 ans, qui le seront moins lorsqu'on cherche un emploi à 30. Donc ça, après, il faut aussi qu'il y ait une éducation qui soit faite par rapport aux jeunes, même aux moins jeunes, de ne pas laisser des traces et de ne pas trop en dire sur les réseaux sociaux.
Alors, on arrive déjà au bout de ce podcast passionnant. On aurait pu en faire 10 épisodes de suite. Une dernière question, Nathalie, avant de laisser la parole à Eric. Pour les entreprises qui nous écoutent, elles aussi, là on a parlé évidemment aux candidats, mais pour les entreprises, en sens inverse, quels conseils peux-tu leur donner ?
Alors déjà pour le recrutement, de faire très attention aux méthodes qu'ils utilisent, bien respecter la vie privée du futur salarié, de faire attention au temps de conservation des données, puisque là c'est la CNIL fait des contrôles, on ne peut pas conserver plus de 3 ans une CV tech, et donc de bien noter quand les CV sont rentrés, sortis, et s'ils souhaitent les garder plus longtemps, contacter les personnes pour les garder plus longtemps.
Voilà, un bon conseil. Eric, peut-être une dernière question à poser à Nathalie.
Oui, c'est quelque chose qui me démange un peu. On vient de parler de la protection des données. On a vu qu'il était quand même utile que, malgré un texte protecteur, les gens soient également prudents sur ce qu'ils produisent. Mais qu'en est-il du secret de l'instruction ? Quand les gens sont justiciables, le secret de l'instruction, c'est quelque chose qui paraît extrêmement critique en termes de confidentialité, et qui néanmoins semble, dès qu'on a affaire à des personnes publiques, régulièrement bafouées, non ?
Alors, il y a deux choses. Il y a le RGPD et il y a une autre directive qui s'appelle Directive Justice Police, qui donc rentre dans le cadre de tout ce qui est judiciaire. C'est ce que vous vouliez dire ?
Oui.
C'est ça. Donc en fait, le RGPD s'arrête là où commence Justice Police.
D'accord. Bon, c'est une réponse.
J'espère qu'elle vous va.
Peut-être... un appel à cette réponse. On verra en tout cas dans un prochain podcast. Un immense merci, Nathalie, d'être venue nous présenter comme ça, de façon très superficielle, parce qu'on pourrait en dire beaucoup plus, c'est RGPD.
Merci beaucoup.
Merci, Eric. À très vite.
À bientôt.